Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, les grandes gueules.
C'est la première fois hier que le procureur Blachon prenait la parole pour faire un point sur cette enquête, sur cette disparition de ce petit garçon de 2 ans et demi. Pour le moment, aucune hypothèse n'est privilégiée, c'est ce qu'a dit le procureur hier.
Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. L'enquête va se poursuivre avec la même intensité. Elle se poursuit en ce moment sur le terrain car les fouilles ne sont pas terminées. Elles vont se poursuivre sur le plan criminalistique car les éléments retrouvés n'ont pas fini d'être analysés. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile.
Alors, il y a des analyses qui sont toujours en cours, des recherches aussi. On a découvert le crâne et quelques vêtements du côté du Haut-Vernay, ce hameau, en fait, maintenant, qui est malheureusement pour lui dans cette tragédie et dont le nom est rattaché à la disparition, à la mort du petit garçon.
Le procureur Blachon est prudent. Il dit que toutes les hypothèses sont sur la table. Néanmoins, les derniers éléments qu'il nous a dévoilés tendent quand même à confirmer le scénario de l'accident. Pourquoi ? Parce que on a retrouvé effectivement les vêtements que portait cet enfant le jour de sa disparition, à savoir donc le t-shirt, les chaussures et une culotte non loin des ossements du crâne qu'on a trouvé. Donc ça fait penser effectivement à un petit enfant qui se perd, qui tombe et qui meurt sur place. On a découvert tout cela à 25 minutes à pied. Environ du village. On sait que cet enfant marchait, était assez vif, énergique et qui pouvait aussi être assez autonome dans ce coin-là. On sait aussi que, et ça c'est quand même assez surprenant, c'est que dans cette zone, certes, il y a eu des battues citoyennes, mais les chiens ne sont pas allés jusque-là. Donc ça c'est
important
donc,
de le dire,
c'est important de le dire. Et on apprend en plus que comme il faisait très chaud en juillet, eh bien ça pouvait altérer l'efficacité des chiens pisteurs. Ça aussi, on le savait pas, puisqu'on nous a expliqué sur les plateaux que les chiens, c'était infaillible. Bon, finalement, quand il fait trop chaud, ces chiens sont moins efficaces. On nous y expliquait d'ailleurs que la caméra thermique aussi, quand il fait trop chaud, ça marche pas bien parce que on confond les rochers qui sont chauds, qui restent chauds la nuit, avec des êtres vivants. Bon. Et puis, les fractures qui ont été constatées sur le crâne du petit Émile, c'est des fractures post-mortem. Donc a priori, il n'a pas été tapé avant. Donc c'est des blessures après, sans doute causées peut-être par une chute ou en tout cas, le fait que le crâne est roulé avec des intempéries, des animaux bien sûr, parce qu'on est en pleine nature. Bref, est-ce que finalement on n'est pas dans la thèse de l'accident ? Et pour l'instant, le procureur reste prudent, mais il va falloir à un moment donné qu'il se mouille un peu plus et qu'il nous dise précisément ce qui s'est passé.
Antoine Dier, ça.
Mais déjà, dès qu'on parle du petit Émile, moi, ça me fait une peine immense parce que on imagine tous ces vacances en famille et là, le drame arrive. Donc déjà, c'est difficile d'en parler. Ensuite, souvenez-vous, à l'époque, plein de choses avaient été dites, etc. Et la question de l'accident était assez repoussée. On n'y croyait pas trop. Bah, a priori, c'est vers ça qu'on se dirige.
Et puis, on a même accusé le grand-père.
Ouais.
On s'en est pris même à cette famille parce qu'elle était
catholique.
Secrète.
Bon,
comme si c'était d'ailleurs un crime.
Oui. Alors, en parlant de ça, on peut aussi voir peut-être un signe de la réapparition, entre guillemets, d'Émile pendant le week-end de Pâques. Les parents avaient écrit une lettre il y a quelques semaines ou quelques mois en disant « Mais où qu'il soit, dites-nous, on n'en peut plus de pas savoir ». Et au moment du week-end de Pâques, le petit Émile réapparaît tristement, mais il réapparaît. Les parents ont au moins l'information qu'il est décédé, qu'il était là. Alors, on entend aussi, ils l'ont pas trouvé, ils ont pas trouvé le corps malgré les battues.
On commence à faire le procès de la gendarmerie, voilà. C'est ça. Ouais.
Doucement, manifestement, l'enfant a pu être déplacé, probablement par un animal, par une bête sauvage, dans une nature très hostile hein, à cet endroit-là de la France. Donc vraiment, je pense pas qu'il faille non plus aller sur les remises en cause du travail de ceux qui ont cherché, etc. Voilà. Il semblerait qu'on soit face à un très très triste événement, malheureusement.
Un accident, Étienne.
Il faut savoir, parce que quand tu dis, je rappelle quand même que ce grand-père en question, c'est pas tout à fait le catholique, parce que puisque tu en parles, je poursuis. C'est quand même ceux qui veulent aller voir ce qui s'est passé au centre de rue Aumont. Où il travaillait, qui est un centre de scout unitaire de France, qui est un centre très très de catholiques extrémistes. Il a quand même été témoin assisté pour des affaires de violence. Le centre a été fermé un temps pour des affaires de pédophilie. Il a été un temps, et aussi les questions de violence à enfants à cause du système éducatif.
Mais Étienne,
il y a beaucoup de plaintes.
Racontes,
donc,
il est lié,
non, mais ça,
le grand-père
non,
est lié.
Non, mais simplement,
ses...
simplement.
Mais c'est comme si
simplement,
tu le dis, instituteur,
tu dis,
et donc
pas...
il y a des
non,
instituteurs
écoute,
pédophiles.
Soit
non,
tu me laisses
parce
parler,
que tu vas trop loin, là.
Donc je dis, non, mais c'est toi qui en as parlé, donc t'en aurais pas parlé, j'en aurais pas parlé.
Il a juste dit qu'il était catholique.
Évidemment, pour sa défense, je dis juste que je rappelle que c'est pas tout à fait les catholiques ordinaires. Voilà, c'est quand même quelqu'un sur lesquels on avait le droit de réfléchir. Par ailleurs,
enfin, c'est pour l'instant c'est une victime.
Mais bien sûr, mais évidemment, évidemment.
Non, c'est horrible.
Par ailleurs,
parce que
je dis juste qu'on avait le droit de réfléchir.
Bah non,
95% des violences sont intrafamiliales. On va pas non plus dire que c'est tout à fait bon. Et secondo, moi je trouve que si cet enfant qui s'était blessé, s'il était blessé, qu'il est tombé. Et que la police et que la gendarmerie avec ses chiens, les Saint-Hubert, qui sont soi-disant des animaux extraordinaires, s'ils l'ont pas vu et s'ils l'ont pas senti au moment, je pense qu'il y a une véritable remise en cause parce que peut-être le gamin était pas mort, il était peut-être blessé parce que les recherches ont eu lieu de jour, on meurt pas comme ça d'un seul coup. Ça c'est le premier point. Pourquoi Émile serait mort d'un seul coup, à moins de s'être heurté la tête éventuellement, mais pourquoi il serait mort d'un seul coup? Deuxièmement. Donc ça c'est un vrai problème. Il va falloir vraiment réviser parce qu'au même moment il y avait la petite Lina qui disparaissait. On faisait exactement les mêmes recherches avec les mêmes clébards. Si ça marche pas, il faut arrêter. Il faut trouver un autre système. C'est que le système est pas bon. Donc il y a un problème. Et puis en plus, moi il y a un truc qui m'étonne. Je sais pas si vous avez déjà vécu à la campagne quand il y a un mammifère, puisque nous sommes des mammifères, qui meurt. L'odeur est absolument insupportable.
C'est en plein air. Là.
C'est absolument insupportable. À 1,5 km, alors qu'il y a des gens visiblement puisque c'est des gens qui se promènent, c'est absolument fou que personne n'ait remarqué ou senti. Je m'excuse d'aborder ce
d'ailleurs,
problème.
La randonneuse a dit qu'elle était passée un mois auparavant au même endroit. Bon, elle n'avait rien vu à ce moment-là.
Ce qui me fait penser que le corps a pu être déplacé
mais
par des
corps,
animaux, etc.
Autre chose que je ne comprends pas, mais ça, certainement que le procureur vient de donner la réponse, quand quelqu'un meurt, les vêtements de cette personne restent sur le corps de la personne qu'on trouve. Alors, à moins que...
Sauf si les animaux...
Imaginons, mais enfin, il y a quelque chose d'étrange dans le fait qu'on retrouve les vêtements à part des ossements. Il y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans.
Alors il faut préciser.
C'est possible.
On n'a pas retrouvé les squelettes.
Mais non, on a retrouvé le crâne.
Seulement le crâne et les vêtements de un peu plus loin.
Mais
alors, attention, n'oubliez pas, c'est terrible, mais bon, c'est la réalité. C'est le corps d'un enfant de 90 centimètres.
Mais oui,
sont beaucoup plus petits aussi.
Mais je pense qu'il y aura une véritable analyse à avoir de reconstituer ce qui s'est passé dans les recherches et pourquoi ça a foiré.
Zora habitant.
C'est vrai que souvent on s'est demandé quand on en parlait plus, on se demandait où était le petit Émile. C'est vrai que au niveau média, on parle d'une disparition à un moment, et puis cette disparition disparaît des écrans radars. C'est le cas de le dire. Au bout d'un moment, je pense qu'il y en a beaucoup et on n'en parle plus. Et là, il revient, on reparle de lui et malheureusement, il est mort. Moi, je vous avouerai que j'ai du mal à émettre des hypothèses pour la simple et unique raison, c'est que On peut broder, on peut fantasmer, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Il y en a qui croient dur comme fer qu'il a été tué, d'autres qui pensent à un accident, etc. Moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi ces vêtements étaient plus loin. J'ai pas compris. Je pense que si tu tombes et que tu meurs sur le coup suite à un mauvais coup, bah, tu restes sur place, tu te désagrèges sur place et tes vêtements restent sur place. Je n'ai pas très bien compris.
Je pense qu'il a été dévoré par des animaux.
C'est un endroit où il y a énormément d'animaux.
Alors,
il y a
si
même
c'est
des loups,
cette hypothèse-là, oui, ça pourrait en être une. Après, je reviens sur ce que disait Antoine. Antoine disait que ses parents avaient prié et écrit pour qu'il réapparaisse, et il réapparaît à Pâques. Ce qui est pour les croyants une signification c'est ça les croyants ils font des prières et puis ils ont des signes pour eux, ils trouvent des signes et c'est ça donc après que le grand-père soit ceci ou cela, c'est pas le sujet, c'est la force de la croyance qui a fait que peut-être que
ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que dans ce genre d'histoire on préfère quand même
trouver
la théorie du complot, la théorie,
mais c'est ce qui va se passer,
du crime, la théorie de quelqu'un qui serait revenu déposer les restes je vois pas l'intérêt, puisque si quelqu'un l'a fait, pourquoi venir le déposer là, enfin bon,
non mais là c'est parti, on va arrêter personne, on
met en cause la randonneuse parce que la randonneuse a pris le crâne. On apprend quand même qu'elle a mis ça dans un sac plastique, donc elle a eu plutôt un bon réflexe, mais c'est pas grave, la randonneuse est forcément coupable. Enfin, on est dans un truc où, effectivement,
comme pour le reste,
c'est ça qui est terrible. La thèse de l'accident est peut-être moins séduisante. Elle reste de façon dramatique parce que je pense la culpabilité des grands-parents, parce qu'ils se sont dit finalement il a échappé à notre vigilance et il est parti, et donc c'est horrible pour la personne qui l'a vu
et qui a rien fait.
Voilà, on parle de l'enlèvement alors qu'on sait qu'il y a aucune voiture.
Dès qu'il y a quelque chose qui est complexe, etc. Les gens aiment le complot, ça a toujours existé. Enfin,
Lina, à mon avis, elle s'est pas perdue entre la maison et la gare.
Non, mais
Lina,
au moment où c'est passé, je me rappelle, j'avais été invité sur BFM. Le soir où je suis invité sur BFM pour discuter, il y a Lina qui disparaît. C'est-à-dire, c'était complètement dingue, quoi. C'était à une semaine d'écart ou un truc comme ça, et on avait ces deux disparitions inexpliquées. Et un stress incroyable. Et c'est vrai que ça s'est enchaîné. Du coup, ça évidemment que ça développe. Mais je vous rappelle que tous les faits divers, reprenez depuis le petit Grégory, ont développé, et même au 19e siècle, il y a même des journaux qui ne vivaient que de ça, ont développé tout un système de fantasmes normal, populaire, qui fait tout à fait partie de notre univers.
Parce que là, ça, tu as tous les ingrédients qui sont réunis. Tu as un petit village, tu as la campagne, tu as une famille, qui est un peu taiseuse, sur des gens qui vivent de manière discrète, un gamin qui a petite boue il y a 2 ans et demi, comme on a tous eu autour de nous, et
puis on s'identifie. On a tous confié nos enfants aux grands-parents pendant les vacances.
Oui. On s'identifie à ça parce qu'on se dit, nous-mêmes, nos parents nous racontent, un jour tu avais échappé à ma surveillance, je t'ai rattrapé au vol. Et on aurait surtout aimé que ça se termine bien pour ces enfants. Voilà.
Oui, alors ce qui est terrible, c'est que, pardon, si on prend la thèse de l'accident, c'est-à-dire que le petit se perd, c'est-à-dire qu'il aurait pu être retrouvé vivant.
Ben oui,
là, à un moment donné, il va falloir quand même s'interroger sur pourquoi la gendarmerie n'a pas été aussi loin avec les chiens dans ces zones-là, puisque la randonneuse, visiblement, pouvait y aller, et Émile aussi, puisque si on parle de la thèse, il a réussi quand même à aller jusque-là. Alors, on nous dit que la végétation est très haute et peut-être plus difficile d'accès l'été. On a droit à Antoine, sans faire le procès à la gendarmerie.
Émile y est allé.
On a le droit de se poser des questions, c'est normal.
Parce
qu'on a déployé beaucoup de moyens, il y a eu des battues avec 800 personnes.
Mais oui, je vois pas, parce que les battues, ça se passe comme ça. On marche les uns à côté des autres avec un...
Oui, mais toi, t'imagines que c'est un champ plat.
Non, j'imagine rien, j'ai vu les images.
En fait, c'est des ravins, des rochers.
Je te l'accorde, mais on imagine que si...
Des obstacles.
La première chose à laquelle on a pensé, quand même, c'est de se dire que l'enfant était tombé et qu'il avait, etc. Donc on va voir dans les trous. Enfin, ça paraît quand même assez évident.
Il puisse descendre dans tous les trous, à mon avis. Il était là, tombé quelque part.
Je pense que oui, ça valait le coup.
C'est un petit corps, faut pas l'oublier.
C'est un petit corps, c'est dans un endroit où, en plus, on était en plein été avec de végétation assez haute, assez touffu. Dans un temps, justement, on sera dans les Alpes de Haute-Provence. C'est Joël qui veut en parler avec nous, la disparition du petit Émile, la thèse de l'accident. Alors, aucune hypothèse n'est privilégiée. C'est ce que dit de manière très prudente le procureur d'Aix-en-Provence, procureur Blachon, qui est en charge du dossier de cette enquête. On a l'impression que malheureusement, ça a été un accident, un fâcheux concours de circonstances pour un gamin de 2 ans et demi. Est-ce qu'il a échappé à la surveillance? Il venait de se réveiller de sa sieste et il avait l'habitude d'aller dans la petite cabane.
Dans les lapins.
Voilà, une cabane à quelques dizaines, centaines de mètres de là. Et c'est vrai que parfois, les gamins à la campagne, ils sont peut-être un petit peu plus dégourdis que les autres. Bon, est-ce qu'on saura un jour la vérité? Est-ce que c'est la thèse de l'accident qui est privilégiée pour le petit Émile? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Dans un instant, Joël, dans les Alpes de Haute-Provence, justement.
RMC.
D'accord, midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec Étienne Nebig, avec Zora Bitton, avec Antoine Diers. On évoque la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, une privilégiée, c'est ce qui semble être privilégié. Enfin, le procureur dit aucune piste n'est privilégiée, mais c'est vrai que de ce que l'on entend, de ce que l'on peut comprendre, pour retenir peut-être la thèse de l'accident. Joël va en parler avec nous, il est dans les Alpes de Haute-Provence, du côté de Digne. Bonjour Joël.
Bonjour les grandes gueules.
Bonjour Joël. C'est vrai, quand on voit ce visage du petit garçon, que l'on pense à ce qu'a dit le procureur, pensez-vous aussi à la thèse de l'accident?
Alors, je le pense depuis le début, moi.
Pourquoi?
Ben, parce que je vois à peu près un enfant de 2 ans, hein, ça me dure à peu près 1 mètre. Alors j'ai entendu sur les réseaux, j'ai lu sur les réseaux sociaux des horreurs, des aberrations, des gens qui parlent pour ne rien dire. Il y en a plein. J'ai écouté même dans les médias, hein, parce qu'en fait on veut, c'est j'entendais tout à l'heure celui qui parlait juste avant la pub, on est dans la thèse du complot. Il faut un coupable à tout prix. Il y a pas de coupable. Je pense qu'il y en a un. Malheureusement, je vais le mettre entre guillemets. C'est peut-être les parents qui n'ont pas eu la vigilance nécessaire. Les grands-parents, voilà, ou peu importe. Voilà, 2 ans, ça fait 2 kilomètres facilement, hein, y a pas de souci. Voilà. Après, on dit on n'a pas trouvé, les recherches ont été mal faites. Moi, je le pense aussi. Les chiens qui sentent pas, qui s'arrêtent vers le lavoir. Moi, j'ai plein d'amis chasseurs. J'y étais aussi. Quand il fait sec, les chiens ne sentent pas grand-chose. Voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, quand le sol est trop chaud, ça la truffe ne renifle pas ce qu'il faut. Après, on dit les passés, ils sont passés, ils sont repassés. Oui, mais je me souviens d'une affaire dans le Var où ils ont retrouvé le corps au bout de 8 ans et ils ont passé 25 fois. Hein. Essayez-vous de perdre un objet chez vous dans un coin, dans l'herbe. Vous allez passer 20 fois, vous n'allez pas le trouver, puis 2-3 jours après, vous allez repasser, vous allez tomber dessus. Pourquoi?
C'est vrai.
C'est comme ça, c'est malheureux. Alors, il a peut-être pu tomber dans un trou, il y avait beaucoup de végétation. Il est tombé dans les trous, la végétation s'est remise par-dessus.
Vous connaissez ce coin, vous qui êtes des Alpes de Haute-Provence, du côté du Auvernais?
On le connaît déjà par un drame assez récent, c'est l'avion de la Germanis Airwind, là, qui a eu je sais pas combien de morts. C'était déjà là, hein, c'était dans le coin. Donc voilà, c'est la randonneuse, la pauvre, elle s'est fait matraquer.
Voilà. Justement.
Moi, personnellement, je vais vous dire, j'aurais tombé dessus, j'aurais fait la même chose. Voilà. Elle a cru bien faire, bien sûr. Elle a tout de suite pensé au petit Émile. Hein,
elle l'a mis dans un sac en plastique, d'ailleurs, donc, parce qu'elle voulait que c'était ça. Voilà. C'est surtout qu'on a eu peur qu'elle ne retrouve pas le lieu.
Allez-y, Joël.
On l'accuse. Oui, c'est dingue. On l'a pas accusé, mais on l'accuse prête. Alors qu'on devrait lui dire merci, parce que c'est grâce à elle que l'enquête a
manqué. Bien sûr. Parce qu'elle a trouvé quelque chose que personne n'avait trouvé.
Non, elle risquait de ne pas retrouver le lieu en ayant pris le crâne. Elle risquait après de ne plus être très précise sur le lieu. En général, on marque le lieu. Quoi.
Mais non, mais j'ai entendu, je lisais, vous y allez sur les réseaux sociaux. Ouais, pourquoi les on a retrouvé que le crâne et pas les os? Ça a sûrement été mis là. Alors, moi, je dis, comme j'ai dit à votre assistant, j'ai un parc à sangliers pas loin. Je veux dire, c'est un restaurateur, il met tous ses déchets organiques, dont les os, il mange tous les cochons, tout, sauf ce qu'est rond.
Mais souvenez-vous.
Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas les prendre dans leur gueule. Donc, c'est pour ça qu'il y a des traces de morsures. Ils n'arrivent pas à les manger. Ils mangent que les os d'un enfant, c'est pas gros, voilà. Donc, ils ont mangé tout le reste, hein, je vous rassure, ils vont pas en retrouver. Voilà, c'est quoi à dire, mais c'est comme ça. C'est malheureusement.
Mais vous souvenez, Joël, parce que Demi Criset hier le rappelait, il y a eu l'affaire Lucas Tronche, cet adolescent de 16 ans qui avait disparu, qu'on a cherché en vain pendant 6 ans. Et puis finalement, ses ossements, ainsi que ses effets personnels, ça fait vraiment penser à l'histoire d'Émile, été retrouvés sur le flanc d'une falaise à 800 mètres de son domicile. Donc en fait, il avait sans doute chuté. Du haut de cette falaise. Alors peut-être qu'il s'est suicidé, on n'en sait rien, mais en fait bon, il y avait une chute et on l'a cherché pendant 6 ans, il était à 800 mètres de chez lui.
Oui, mais je la connais cette histoire. Voilà, mais
ça fait penser beaucoup à l'affaire Émile.
La vie du moi je mets des caméras thermiques, enfin pas thermiques, infrarouges pour les animaux, pour la surveillance des animaux. Je vais vous dire, vous imaginez pas tout ce qu'on peut voir. Moi j'ai vu des petits marcassins traîner des bâches en plastique de 25 kilos. Vous voyez ? Pour s'amuser, parce qu'ils s'amusent, les petits marcassins. Ils mangent pas, machin, ils s'amusent. Et ils trient. Donc, prendre les petits vêtements, les machins, aller les emmener à 50 mètres, à 20 mètres. Mais oui, mais c'est possible, tout ça, c'est la vie sauvage. Malheureusement, ça fait aussi partie de la nature. Bah, les animaux, ils tombent là-dessus.
Oui, parce que tout le monde s'imagine être vivre en ville. Enfin, oui, beaucoup de gens qui habitent.
Tout le monde vit en ville.
Tout le monde vit en ville. Et il y a très peu de gens aujourd'hui qui connaissent vraiment la vie dans la nature, même si on n'est pas au Brésil, mais quand même.
C'est des animaux qui sont très intelligents. Je veux vous dire, ils sont capables. Vous savez, dans le temps, moi, je me rappelle, j'ai lu des livres dans la guerre. Quand on voulait faire disparaître un corps, on le mettait dans les cochons. Hein, il ne restait plus rien. Voilà, alors voilà, c'est triste pour ce petit gamin. On est tous un peu sans dessus dessous. Mais voilà, il ne faut pas chercher des couilles. Moi, je pense que le procureur, il sait, il est un peu. Enfin, je pense qu'il est comme moi. Je pense qu'il pense à la thèse de l'accident, mais suffisamment, il n'a pas assez de preuves pour pouvoir.
Il attend que les expertises, voilà.
Les expertises continuent. Il va privilégier cette thèse-là parce que
c'est la thèse des sangliers.
Olivier faisait allusion à l'affaire Lucas Tronche, mais il faudrait en vérifier. Mais je crois qu'entre le moment où il y a eu la découverte, alors il y a eu 6 ans de recherche, ensuite le moment où on a découvert le corps et la clôture de l'enquête, il faudrait vérifier. Mais je crois qu'il y a eu encore 1 an et demi,
ben voilà.
ou 2 ans. Sûr. Si tu veux le temps à ce moment-là de refaire les analyses, toutes les expertises, de refaire en fait de nouveau tout le parcours, de regarder ce qui restait, il va te demander de descendre dans la ravine, tu vois, de refaire des repérages. Donc entre le moment où on a retrouvé le corps et la clôture de l'enquête en disant c'était un accident, 2 années qui ont passé.
Je crois que ce qui est douloureux, c'est d'imaginer que l'enfant n'est pas mort tout de suite après sa chute ou après. C'est ça qui est douloureux. Ouais. Et c'est ça qui, en fait, nous fait penser que on est passé à côté d'un truc. C'est ça dont peut-être on ne saura jamais. Mais tout à l'heure, on évoquait la mort de la jeune fille, Pauline Lafont.
La fille de Bernadette,
on sait qu'elle est restée.
C'était perdue aussi en forêt.
Elle s'était perdue, elle est tombée, et on sait qu'elle est restée un certain temps avant de décéder. Et c'est ça qui nous, en fait, c'est ça qui nous perturbe. C'est à ça que j'ai pensé dès le début. Si ce gamin n'est pas mort tout de suite et qu'on l'a cherché et qu'on l'a pas trouvé, là, je vais dire, ça fout vraiment les boules, quoi.
Nous sommes avec Manu qui est avec nous. Manu qui nous appelle de Corse, de Porto-Vecchio. Bonjour, Manu.
Ouais, bonjour tout le monde.
Bon, comme tout le monde, vous avez suivi, j'imagine, cette histoire, ce drame. Qu'est-ce que vous en pensez là de ce que disait le procureur ? Il faut rester sur cette thèse de l'accident. Manu, dites-moi.
Bah écoutez, déjà il faut réussir à prendre un peu de distance avec ça, parce que je pense que déjà dans un premier temps, quand on est parent, on transfère un peu tout ça à ce qui se fait à nous-mêmes. On s'imagine que demain si ça nous arrive. Donc c'est dur d'imaginer la mort d'un enfant comme ça. Donc déjà dans un premier temps, c'est très difficile, je pense, de réussir à avoir un avis dépassionné. Et après, quand on a un avis dépassionné, il faut essayer aussi d'avoir un avis un peu mesuré, parce que il faut avoir un peu de pudeur là-dessus. C'est pas évident, hein, je veux dire. Donc c'est déjà très difficile. Moi, je dis que il y a un truc qui me chiffonne énormément, et c'est Monsieur Truchot qui a dit tout à l'heure par rapport
à... Le blond qui est à côté de moi, c'est Antoine Dierce.
Non, l'autre alors.
Celui qui a pas de cheveux. À propos de quoi,
le vieux loup de mer, c'est Kenny Big.
Le beau gosse,
voilà,
c'est
Kenny Big. Moi, je pense que tout le monde a un peu une hypothèse et a été mesuré quand même, ça va. Donc on a tous quelquefois un peu, je pense pas, on va pas dire pas de tort ou de raison, mais tout le monde se rapproche peut-être un peu de peut-être ce qui a pu se passer. Mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est par rapport à un corps en décomposition. Moi, je suis sur la route tous les jours, vous savez, quand il y a un corps se décompose, même s'il y a des animaux sauvages qui tapent dedans, ce qui est une réalité, comme l'a dit le monsieur qui parlait avant.
Oui, c'est insupportable.
Il y a des odeurs qui restent. Et moi, quand on me dit que les animaux ne peuvent pas sentir... Oui, une odeur d'un être vivant avec la chaleur, qui a une hygiène assez correcte. Donc oui, au début, c'est un peu compliqué. Mais au bout d'un moment, l'odeur de la putréfaction, c'est très violent. Vous avez, après, derrière, vous avez aussi quand même une pression. Ça a duré des semaines, les recherches. Donc la moindre odeur aurait dû éveiller une inquiétude. Donc,
Manu, pour vous, il y a une
zone. J'ai du mal avec cette thèse.
Moi aussi.
Voilà, il y a une zone d'ombre pour vous.
Je suis d'accord avec ça. D'un côté, j'ai du mal.
Vous partez du principe qu'il y ait eu décomposition du cadavre. C'est horrible d'en parler, mais il a peut-être été mangé très vite. C'est-à-dire que quelques jours après son décès, les sangliers.
Disait Joël, hein, il disait que la nature, les sangliers.
Vous savez, alors je vais vous dire, je vais vous donner un exemple tout bête. C'est horrible, c'est macabre et ça fait mal au cœur de prendre ces comparaisons-là. Vous prenez un chat qui meurt sur la route, des fois il reste des semaines. Les bêtes tapent dedans, mais il reste des semaines et ils sont.
Bien sûr.
Donc moi je veux bien peut-être.
C'est des oiseaux. Mais vous doutez, Manu, vous doutez.
Je ne détiens pas la vérité. Mais moi ça, je pense qu'il y a eu un gros trou dans la raquette à ce niveau-là.
Ah c'est clair.
J'ai du mal à m'enlever de l'idée avec le monde qui a été mobilisé, les moyens qui ont été mis en place. La pression qu'il y a eu, les gens du village qui ne vivent plus parce que ces gens-là.
Et puis c'est sensibilisé. Les gens étaient très sensibilisés. La moindre hauteur de Charonne, ça.
Ouais. Je peux pas. Moi, j'ai du mal avec cette thèse de on est passé à côté. J'ai vraiment trop de mal. J'y arrive pas. Donc peut-être que je me trompe.
Attendez, Manu. Justement, vous dites, Manu, parce que vous dites, j'ai du mal avec l'idée qu'on ait pu passer à côté avec les chiens ou avec les battus. Donc, je vous pose la question, quelle est votre hypothèse ou votre scénario? Juste comme ça, Manu, c'est quoi?
Le problème, c'est qu'on en a. On n'est pas. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un scénario. Même avec ça, même avec ce que je vous ai donné comme argument, j'arrive pas à me faire un scénario parce que on se dit vraiment, on est tordu, on va tout de suite chercher, comme le disait le monsieur tout à l'heure, un coupable. Il a pas tort non plus dans ses propos. Mais après, il n'y a pas forcément. Il peut y avoir un accident malheureux dans une maison, comme il peut y avoir un accident malheureux dehors. Comme il peut y avoir un accident malheureux de chat, comme il peut y avoir un accident malheureux de n'importe quoi, d'un chien qui l'a attaqué, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais moi, ce que j'ai du mal à concevoir, c'est qu'on soit surtout passé à côté.
C'est ça, c'est peut-être la seule question.
Je là comme ça, j'ai du mal.
Sur le reste, c'est plausible, mais c'est la question importante parce que du coup, on a une liste d'indices dans la tête qu'on doit guetter. L'odeur, il y a une liste de choses sur les dès qu'on sent un truc.
Est-ce que les oiseaux sont au-dessus, quoi,
Et bon, mais comme dit,
a priori, il n'y a pas eu de cadavre en décomposition.
Sauf s'il n'était pas là, l'enfant.
Ah, sauf
parce que la seule solution qu'il y aurait qui expliquerait ça, c'est que l'enfant n'était pas là au moment et qu'il a été mis après. Donc personne l'a repéré parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer. Je suis un peu comme notre auditeur.
Tu peux comploter et imaginer un meurtre maquillé.
Sauf que le procureur a l'air de dire que le corps n'a pas été ni enterré ni conservé, etc. Qu'il est dans un état resté à l'air libre dans la nature.
Ça, c'est les analyses du crâne qui dit ça. Manu, je te remercie d'avoir été avec nous. Voilà nos impressions avec vous, avec Joël, avec Manu, concernant la disparition, la mort du petit Émile. On espère qu'on saura toute la vérité là d'ici quelques jours et que tous les indices qui sont en ce moment collectés par l'IRCGN, par les gendarmes, par le procureur, permettront, surtout pour les parents, de connaître la vérité.
RMC Football. Samedi à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury, finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.